Le grand plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bertrand Marshall, qui s'impose comme le spécialiste de Stéphane Mallarmé. Alors, Bertrand Marshall, vous avez été professeur de littérature française du 19e siècle à la Sorbonne, à l'université, pendant près de 20 ans, de 1999 à 2019. Vous êtes désormais professeur émérite et comme le savent les anciens étudiants de lettres, vous avez consacré la plus grande partie de vos travaux à Mallarmé. Alors je cite deux essais publiés chez José Corti. Le premier remonte à 1985, Lecture de Mallarmé, et le second, très connu, 1988, La religion de Mallarmé. Vous avez publié l'édition des œuvres complètes de Mallarmé en deux volumes pour la Bibliothèque de la Pléiade, le premier en 1998 et le second en 2003. Puis l'édition de sa correspondance qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, publié chez Gallimard en 2019. Voilà. Outre des éditions de poche que je ne cite pas, mais dont certains vous trouverez un exemplaire si certains le désirent à l'issue de la séance. Alors, vous, en dehors de Mallarmé, vous avez aussi consacré un essai au symbolisme chez Armand Collin en 2011. Vous avez également écrit sur le mythe de Salomé dans la littérature du 19e siècle, publié chez Corti en 2006, et puis donné des éditions de Nerval et de Musset. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr retrouver. Donc, ma voix ne portant pas assez, excusez-moi, mais je pense que celle de Bertrand Marshall va porter. Sinon, vous vous manifestez et on mettra le micro. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci.
Merci, madame. Bonjour mesdames, bonjour messieurs d'abord, et merci d'être présents. Je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec Mallarmé, donc veuillez m'excuser si je dis des choses évidentes, trop de choses évidentes, ou inversement si je dis des choses qui mériteraient davantage d'explications. Je tâcherai de laisser du temps pour que vous puissiez réagir à la fin de cette séance, si vous avez des questions à poser, si vous avez des remarques à faire. Donc n'hésitez pas à intervenir, même à tout moment, à arrêter l'exposé, qui n'est jamais qu'une présentation de la correspondance. Et avant de faire cette présentation, une petite précision concernant l'objet dont je vais parler. Il y a à la fois cet objet-ci, qui est un objet déjà ancien, c'est une édition qui n'est qu'une édition partielle de la correspondance, c'est l'édition essentiellement complète d'une seule période de la vie de Mallarmé, la première période 1862-1871, correspondante au tome 1 de l'ancienne édition des œuvres complètes, ou de la correspondance complète de Mallarmé. Et ce premier volume a été refait parce qu'il était très défectueux, très incomplet, avec des erreurs de lecture. Et puis, à ce premier volume complet, se sont ajoutées quelques lettres représentatives des autres périodes de Mallarmé. Mais ce n'est qu'une sélection. En revanche, il est un autre objet plus récent. Pour ceux que cela intéresserait, c'est la correspondance complète de Mallarmé pour les années 1854 à 1898, donc jusqu'à sa mort. Cette correspondance complète regroupe 3340 lettres et représente donc l'intégralité des lettres conservées où retrouver de Mallarmé à ce jour. Bien entendu, il faut toujours préciser à ce jour, parce qu'une correspondance, par définition, n'est jamais achevée. On retrouve, on finit toujours par retrouver des lettres. Bref, il est des lettres que vous allez entendre, dont vous allez entendre la lecture, qui figurent dans cette édition comme dans l'édition complète. Il est aussi des lettres qui ne figureront pas dans cette petite édition, mais qui ne figurent que dans l'édition complète publiée chez Gallimard et qui fait à peu près 2000 pages. En collection blanche, mais collection blanche reliée. Alors venons-en à cette correspondance pour dire un mot d'abord sur les particularités de cette correspondance avant d'en venir à notre objet, c'est-à-dire le poète et l'homme dans la correspondance. Un mot pour cette correspondance pour dire qu'il y a en gros trois grandes périodes dans la correspondance de Mallarmé. Si l'on laisse de côté les quelques lettres, qui sont des lettres d'enfance et d'adolescence, il y en a très peu. En gros, la correspondance de Mallarmé commence en 1862 et elle s'achève en 1898 à sa mort. Et dans cette période de 37 années, il faut distinguer trois grandes parties. La première grande partie, c'est celle qui correspond aux années 1862-1871. C'est-à-dire, c'est la partie justement qui a été refaite dans ce volume. Pourquoi cette partie est-elle peut-être la plus importante? C'est la partie où le jeune Mallarmé fait son apprentissage de poète. Et dans cette partie-là, il se trouve qu'il est en exil en province. C'est-à-dire que son seul moyen de communication avec ses amis, c'est la correspondance. Et cette correspondance est composée essentiellement de lettres à des amis, de lettres qui sont de très longues lettres, bien souvent, et des lettres qui sont confidentielles, c'est-à-dire où Mallarmé ne cesse pas de faire des confidences, tant sur sa vie que sur ses amours, et surtout sur sa poésie. Parce que les amis proches auxquels il écrit sont évidemment eux aussi des apprentis poètes. Et notamment les principaux correspondants de Mallarmé à cette époque sont, peut-être que certains noms vous sont connus, c'est d'une part Henri Casalis, qui est aussi un apprenti poète du même âge que Mallarmé, qui est à cette époque-là étudiant en droit et qui bifurquera un peu plus tard vers la médecine pour devenir, tout en restant un poète et un poète reconnu, un médecin hygiéniste réputé. Le deuxième contemporain important de cette période, c'est Eugène Lefébure, que Mallarmé a aussi connu à Sens, où il a passé son enfance. Et ce jeune homme, qui est aussi du même âge que lui, qui a les mêmes passions que lui, est à l'époque employé des postes. Mais ce n'est que provisoire, parce qu'il va s'intéresser rapidement à l'égyptologie et il va devenir un égyptologue réputé, à une époque d'ailleurs où l'amitié avec Mallarmé aura cessé. Le troisième correspondant, c'est Emmanuel des Essarts. Et Emmanuel des Essarts, il est un tout petit peu plus âgé. Pourquoi? Parce que Mallarmé l'a connu au lycée de Sens, à l'époque où il passait son baccalauréat. Et Emmanuel des Essarts venait d'être nommé professeur au lycée de Sens. Mais tout jeune professeur, frais et moulu, de l'école normale. Et il était lui aussi apprenti poète et fils de poète. Son père, Alfred des Essarts, était également poète. Donc, il est très vite devenu un ami, malgré la petite différence d'âge, de Mallarmé, et également un confident du poète. Et le quatrième, c'est Armand Renaud. Armand Renaud, qui est un jeune Parisien, qui est employé à l'hôtel de ville et qui servira à Mallarmé pour ses amitiés dans le monde de l'administration quand il sera enseignant. Lui aussi est un apprenti poète. Voilà les quatre correspondants privilégiés de Mallarmé à cette époque, dans les années 62-71. Ce qui fait que pour cette période-là, on a de très longues lettres où Mallarmé s'ouvre à lui, s'ouvre à eux, de toutes ses difficultés, de tous ses problèmes en tout genre, et surtout de son évolution de poète. La deuxième grande période, c'est à partir de 1872 jusqu'en 1884. Et il y a un changement radical de la correspondance dans cette deuxième période. Première raison de ce changement radical, c'est que Mallarmé revient à Paris. Il est désormais nommé à Paris comme enseignant, et par conséquent, pour la plupart de ses amis, si du moins ses amis sont restés ses amis, pour la plupart d'entre eux, il n'a plus besoin de la correspondance pour avoir des relations avec eux. Ce qui fait que les très longues lettres d'amitié disparaissent à peu près complètement. Et à cette époque-là aussi, bien entendu, comme il est à nouveau à Paris, il va essayer de s'intégrer au petit milieu littéraire parisien. Et s'intégrer, cela veut dire avoir des contacts avec les uns ou les autres, mais des contacts moins amicaux que professionnels. Surtout dans un milieu où il a une réputation à cette période-là. Cette réputation, c'est celle d'un poète qui est en quelque sorte un fou poétique. Et fou poétique, pourquoi ? Parce qu'il écrit, il publie plus exactement, des poèmes, en vers ou en prose, qui sont, j'ouvre les guillemets, absolument incompréhensibles. C'est la formule que l'on utilise chaque fois que l'on veut parler de Mallarmé. Un poète absolument incompréhensible. Voilà ce qu'est Mallarmé dans cette période-là. Et dans cette période-là, il ne faut pas oublier que s'il a déjà cette petite réputation de fou poétique, il n'a encore rien publié comme recueil. Pas un seul recueil. Des poèmes ici ou là, des traductions de Poe ici ou là, mais pas de recueil. Alors que la plupart de ses contemporains, des poètes du même âge que lui, par exemple François Coppée, sont déjà pratiquement à l'Académie et ont, sinon leurs œuvres complètes, du moins un certain nombre de recueils qu'ils ont publiés au cours de ces années. Bref, Mallarmé est en retard de ce point de vue-là. Et la troisième période, c'est la dernière période, 1884-1898. Pourquoi cette césure en 1884 ? Pour une raison très simple, c'est que il va y avoir en cette année 84 une conjonction qui va aboutir à promouvoir Mallarmé sur le devant de la scène littéraire. Cette conjonction, c'est la publication en 84 du roman de Huysmans, À rebours, qui va faire une publicité inespérée pour Mallarmé. Dans le chapitre 14, où il présente la modernité poétique issue de Baudelaire. Et en tête de cette modernité poétique issue de Baudelaire, il y a Corbière, il y a évidemment Verlaine et Mallarmé. Donc, publicité pour Mallarmé, ce qui fait que bien des gens qui ne connaissent pas Mallarmé vont le découvrir par À rebours. À la même époque, puisque c'est une conjonction, Verlaine publie ses Poètes maudits, exactement à la même époque, qui fait la résurrection de Rimbaud, qui présente Corbière et qui présente Mallarmé. On en reparlera. Bref, Mallarmé apparaît désormais sur le devant de la scène. Il va devenir, pour la jeunesse poétique qui le découvre, une figure de référence. Parce que les temps ont changé et le modèle parnassien le cède à un modèle, disons, décadento-symboliste. En devenir, mais c'est une autre histoire. Toujours est-il que voilà les trois périodes. Et dans cette troisième période, évidemment, que se passe-t-il pour la correspondance? À partir du moment où Mallarmé devient une figure reconnue, il va avoir des relations beaucoup plus nombreuses avec le milieu littéraire, non seulement parisien, mais français et international. Il va avoir, surtout chez les jeunes apprentis poètes, des disciples. Les plus célèbres d'entre eux s'appellent Claudel, Gide, Valéry, Pierre-Louis et beaucoup d'autres. Et non seulement il y a ces jeunes poètes qui le prennent pour guide, mais il y a aussi de plus jeunes poètes encore qui, à partir du moment où ils le connaissent et reconnaissent Mallarmé, vont vouloir lui envoyer leur premier poème, leur premier recueil, sans parler des confrères qui, évidemment, vont lui envoyer aussi leurs œuvres, comme Mallarmé envoie ses œuvres à eux. Tout cela fait qu'il y a une effervescence beaucoup plus grande, qui multiplie le nombre de correspondants de Mallarmé, qui multiplie aussi la célébrité de ses correspondants, mais qui a un autre effet inverse, c'est que on passe de très longues lettres de la première période aux très courtes lettres de la dernière. Parce qu'évidemment, la longueur des lettres est inversement proportionnelle à leur nombre. La correspondance est une activité chronophage. Et Mallarmé va consacrer beaucoup de temps à sa correspondance. Et plus il y a de correspondants, plus il y consacre de temps et par conséquent, il va réduire, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à de jeunes poètes qui lui envoient leurs premiers vers. Le résultat, c'est qu'on passe de très longues lettres de plusieurs pages à, très souvent, des lettres qui prennent la forme de simples cartes de visite avec deux lignes, trois lignes. C'est la limite, bien sûr, il y a tous les cas intermédiaires possibles, mais c'est comme cela que ça se passe. Et pourquoi cela se passe-t-il comme cela? Pour une raison simple, c'est qu'il y a une pratique épistolaire de Mallarmé très singulière, qui est à son honneur. C'est qu'il s'est toujours fait un devoir, une obligation, de répondre à tous ceux qui lui envoient quelque chose. Et qui n'attendent en retour que même une simple carte de visite avec deux lignes de Mallarmé. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, cette simple carte de visite avec deux lignes de Mallarmé, c'est un passeport pour l'avenir. Il y a évidemment un côté fétichiste de ces jeunes poètes qui admirent Mallarmé et qui savent que les formules de Mallarmé, ce ne sont pas des formules passe-partout, parce que Mallarmé, lorsqu'il répond, n'utilise jamais la même formule. Vous ne trouvez jamais, pour des centaines et des milliers de réponses à des écrivains différents, deux formules comparables, deux formules semblables. Il choisit donc ses mots de telle façon qu'il fasse plaisir à ses correspondants. Voilà ses remarques préalables. Et puis une dernière remarque concernant cette correspondance. Cette correspondance a aussi un autre aspect, en dehors de l'aspect strictement poétique. Elle concerne évidemment l'homme. Et en particulier, Mallarmé est marié. Il a eu une fille, il a eu un garçon, on en reparlera. Et chaque fois que Mallarmé quitte sa femme pour un voyage ou pour un séjour, surtout à partir du moment où il se partage entre Paris et Valvin, particulièrement lorsqu'il sera à la retraite, chaque fois qu'il quitte sa femme ou que sa femme le quitte pour emmener les enfants en vacances en Allemagne puisqu'elle est allemande, chaque fois qu'ils sont séparés, il écrit chaque jour et il reçoit chaque jour une lettre. Chaque fois que sa fille, et ce sera tard, que la fille aura la possibilité de voyager seule, pas seule, sans ses parents. Chaque fois que sa fille prendra des distances consenties par le père et la mère, elle recevra chaque jour une lettre et elle écrira elle-même chaque jour. Donc nous avons là un document, si vous voulez, sur la vie de famille, sur les activités quotidiennes du poète, où il peut être question de poésie, mais de bien d'autres choses, ce qui donne une bonne idée de ce qu'était la personnalité singulière de Mallarmé. Alors venons-en maintenant à la première dimension, la plus importante évidemment, celle qui concerne le poète. Et plus particulièrement dans cette première période qui est celle de l'apprentissage. On ne devient pas poète facilement à l'époque où Mallarmé entreprend d'être poète. Et on le devient d'autant moins facilement que pèse sur lui un déterminisme très fort. Ce déterminisme, c'est un déterminisme familial. Et ce déterminisme, c'est celui de l'administration de l'enregistrement. Parce que, tant du côté paternel que du côté maternel, ce sont des lignées de fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement. Autrement dit, ce sont tous des gens qui tiennent une plume, mais pas pour faire des poèmes. Et naturellement, Mallarmé est voué à entrer, après le baccalauréat, le sésame de l'époque, dans l'administration de l'enregistrement. Sitôt d'ailleurs son bac passé, il est amené à faire un stage dans l'enregistrement et il note dans une espèce de journal intime, au sortir de sa première journée de travail, premier pas dans l'abrutissement. Bref, choisir d'être poète, c'est d'abord choisir de refuser la fatalité familiale de l'enregistrement. C'est passer de l'enregistrement à la poésie. Et la poésie lui apparaît comme une libération. Sauf que pour accéder à cette libération, il faut en passer par les autorisations familiales. En l'occurrence, non pas son père, qui est malade, non pas sa mère, qui est morte, et son père est remarié, mais ses grands-parents. Il est élevé essentiellement par ses grands-parents qui s'occupent de lui. Bref, c'est des grands-parents qu'il va finir par obtenir l'autorisation de se vouer à une autre activité que l'enregistrement. Sauf que poète, ça ne nourrit pas son homme, à moins d'avoir des rentes comme certains. Ce n'est plus l'époque de Lamartine. Et par conséquent, pour accéder à la poésie, il faut se choisir une activité rémunératrice. Et cette activité, ce sera l'enseignement. Mallarmé choisit l'enseignement de l'anglais, ce qui lui permet de faire une année de séjour en Angleterre, après de multiples discussions avec ses grands-parents, une année de séjour en Angleterre pour se perfectionner en anglais et pouvoir passer l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais, qui était un examen beaucoup plus rudimentaire que les examens d'aujourd'hui. Bref, il va devenir professeur d'anglais, il a cette autorisation des grands-parents et surtout il va se lancer dans la poésie et il fait ses débuts poétiques officiels avec ses premières publications en 1862. Il a 20 ans. Et comment caractériser ce Mallarmé de 20 ans? Eh bien, c'est un idéaliste absolu. Et que représente la poésie pour lui? La poésie, c'est l'idéal absolu. C'est ce qui libère des conventions du monde bourgeois. Voilà pourquoi il va se vouer à cet idéal absolu. Et en même temps qu'il publie ses premiers poèmes, il publie aussi un premier article au titre révélateur intitulé « Hérésie artistique, l'art pour tous ». L'art pour tous est donc une hérésie artistique. Et ce texte commence par la phrase célèbre « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère ». Les religions se retranchent à l'abri d'arcanes dévoilées aux seuls prédestinés, l'art à les siens. Bref, que représente la poésie ? C'est une forme de religion, une religion ésotérique pour les seuls initiés. Bref, il se situe dans la grande tradition horacienne, Odi, profanum, vulgus et archeo. Je vais, la foule, profane, et je m'en sépare. Ce qui semble expliquer, bien entendu, sa façon d'écrire, absolument incompréhensible. Voilà cet idéal absolu, cet idéal de poésie, réservé aux seuls initiés. On ne peut pas accéder à la poésie si on n'a pas pris la peine de s'y initier comme on s'initie à une religion ésotérique. Et un bon exemple dans la correspondance de cette profession de foi idéaliste, c'est le texte que l'on va entendre. C'est une lettre du 3 juin 1863, Mallarmé a 21 ans, lettre adressée à Henri Casalis et Emmanuel des Essarts, les deux correspondants dont j'ai parlé.
Je trouve qu'Emmanuel se fait beaucoup de tort en se laissant aller à sa grande facilité. Il commet trop aisément de ces sortes de pages brillantes et vides. Il confond trop l'idéal avec le réel. La sottise d'un poète moderne a été jusqu'à se désoler que l'action ne fût pas la sœur du rêve. Emmanuel est de ceux qui regrettent cela. Mon Dieu, s'il en était autrement, si le rêve était ainsi défloré et abaissé, où donc nous sauverions-nous, nous autres malheureux que la terre dégoûte et qui n'avons que le rêve pour refuge? Oh mon Henri, abreuve-toi d'idéal. Le bonheur d'ici-bas est ignoble. Il faut avoir les mains bien calleuses pour le ramasser. Dire « je suis heureux », c'est dire « je suis un lâche » et plus souvent « je suis un niais ». Car il faut ne pas voir au-dessus de ce plafond de bonheur le ciel de l'idéal ou fermer les yeux exprès. J'ai fait sur ces idées un petit poème, « Les fenêtres », je te l'envoie, et un autre, « L'assaut », qui est vague et frêle comme une rêverie.
Comme Mallarmé dit, la sottise d'un poète moderne a été jusqu'à se désoler que l'action ne fut pas la sœur du rêve. Il ne cite pas le nom de ce poète moderne, mais ça va de soi pour ses correspondants. C'est Baudelaire, le Baudelaire du reniement de Saint-Pierre. Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puissais-je user du glaive et périr par le glaive? Saint-Pierre a renié Jésus, il a bien fait. Alors, en assimilant Baudelaire à Saint-Pierre qui renie le Christ, que fait Mallarmé? Il se montre plus idéaliste que Baudelaire, alors que Baudelaire est son modèle à l'époque. C'est le Baudelaire du spleen et de l'idéal, où Mallarmé reconnaît le conflit primordial entre la réalité, qui est vulgaire, c'est le spleen, et l'idéal, qui s'incarne dans la poésie. Eh bien, même un poète moderne comme Baudelaire peut être insuffisamment idéaliste, c'est dire le degré d'idéalisme de Mallarmé. Et cet idéalisme va évidemment se trouver confronté à la basse réalité, et cette basse réalité, c'est déjà la nécessité de gagner sa vie comme enseignant. Ce qui fait que, dès qu'il fait l'expérience de l'enseignement, c'est en décembre 63 qu'il obtient son premier poste de simple chargé de cours à titre provisoire d'anglais. Et où donc? Non pas à Paris, non pas près de Paris, mais dans la province profonde, à Tournon, en Ardèche. Et c'est la lettre d'arrivée, lorsqu'il arrive enfin à Tournon, le 12 décembre 1863, qu'il écrit ceci à Armand,
Albert Collignon.
Voilà.
« Cher monsieur, j'ai reçu votre chère revue que j'attendais avec bien de l'impatience. Ce premier numéro est aveuglant. Que de noms aimés, que de belles choses. Tout ira à merveille. Soyez-en bien persuadés. Un recueil aussi fort, publié au Quartier Latin à tel prix, ne peut que prospérer. Je vous aiderai de toutes mes faibles forces. Je regrette de n'être pas dans un milieu où je puisse vous être plus utile, mais ici, je ne veux connaître personne. Les habitants du noir village où je suis exilé vivent dans une intimité trop touchante avec les porcs pour que je ne les aie en horreur. Le cochon est ici l'esprit de la maison, comme le chat autre part. Je n'ai pas même trouvé un logement qui ne fût pas une étable. Je suis encore à l'hôtel et ne serai chez moi que dans 2 jours.
Et 8 jours plus tard, le 20 décembre, il écrit à Armand Renaud à peu près la même chose.
Mon cher Armand, ne vous étonnez pas trop de mon silence. Vous savez ce que sont un voyage, l'ennui d'un métier nouveau, un emménagement, etc. Il y a 2 jours, j'étais encore à l'auberge, et voici la première lettre que j'écrive sur ma table, chez moi, en face de la Vénus de Milo. Elle est pour vous. Avant de rien vous dire de votre livre, je me débarrasse des quelques détails indispensables pour un ami sur le lieu de mon exil. Tournon est un petit village noir, très sale, habité moitié par des hommes, moitié par des cochons. Les hommes sont auvergnats et les cochons maigres. La bise est violente et froide parce que nous sommes resserrés entre des montagnes pelées. Au loin, on voit des glaciers, mais tous les pics neigeux du monde ne valent pas un quart d'heure avec vous.
Et au terme de cette année scolaire, de cette première année scolaire, eh bien, il va écrire en 1864, donc, à son correspondant, Henri Casalis.
Henri, ta lettre est adorable. Je me sens beaucoup trop bête pour y répondre. Mon ami, je suis éteint, absolument. Pense que j'ai un nom de Tournon sur l'esprit. Ne m'en veuille donc pas de mon silence. Demain, je fuirai l'Ardèche. Ce nom me fait horreur. Et pourtant, il renferme les 2 mots auxquels j'ai voué ma vie. Ardèche.
Voilà donc ce qu'est le Mallarmé de ses premières années. Un idéaliste exilé dans un monde affreux. C'est naturellement la duplication en petit, si l'on veut, de la situation historique de la poésie à cette époque-là, puisque beaucoup ont le sentiment que la poésie dans le monde du Second Empire, qui est le monde du développement du capitalisme et de la bourgeoisie, que la poésie, comme valeur inutile, est une valeur totalement passée de mode. La poésie est en exil, et la figure même de cet exil de la poésie à l'époque du Second Empire, c'est Victor Hugo, le grand exilé. Eh bien, à sa mesure, Mallarmé est aussi un petit exilé de l'intérieur. C'est ce Mallarmé-là qui va connaître une crise très profonde et une espèce de révolution intérieure. Et cette révolution se produit en 1866, donc 3 ans plus tard, 3 ans après son installation à Tournon. Il est encore à Tournon. Et quelle est la raison de cette révolution ? D'abord, bien entendu, son activité de poète a continué. Elle a continué, et notamment, toujours dans le sillage de Baudelaire et d'Edgar Poe, ces 2 grands modèles, il s'est attelé à un projet inédit pour lui, d'écrire une tragédie pour le théâtre français, pour la Comédie française. Et cette tragédie, c'est Hérodiade, à laquelle il va consacrer les premiers mois de 1865. les premiers mois de l'hiver 64-65. Et puis, à la fin de l'hiver, il laisse de côté Hérodiade encore inachevée et décide de se mettre à un autre projet complémentaire, également théâtral. C'est un intermède héroïque dont le héros est un faune. C'est ce qui deviendra l'après-midi d'un faune. Les deux plus grands, les deux plus célèbres poèmes de Mallarmé, Hérodiade et le faune, sont donc conçus à cette époque-là. Ils sont conçus pour être représentés au théâtre français. Mallarmé consacre donc son activité au faune, à l'été, parce que pour lui, Hérodiade, c'est pour l'hiver, et le faune, c'est pour l'été. Et à la fin de l'été, il revient à Hérodiade. Et après avoir écrit la scène, celle qui figure dans les poésies, il envisage une nouvelle scène qui serait une ouverture musicale de son poème à laquelle il consacre les premiers mois de 1866. Et il travaille tellement sur Hérodiade qu'il n'a pas trop le temps d'écrire comme il le fait d'habitude à ses correspondants privilégiés, notamment Henri Casalis. Ce qui fait que, à la fin du printemps, il prend quand même sa plume, et il prend sa plume pour prévenir Casalis de son état, et surtout pour lui raconter ce qu'il ne lui a pas encore raconté, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant les premiers mois de 66. C'est donc la lettre capitale du 28 avril 66 à Henri Casalis, dont voici un extrait.
J'ai donc à te raconter 3 mois à bien grands frais. C'est effrayant cependant. Je les ai passés acharnés sur Hérodiade, ma lampe le sait. J'ai écrit l'ouverture musicale, presque encore à l'état d'ébauche, mais je puis dire sans présomption qu'elle sera d'un effet inouï et que la scène dramatique que tu connais n'est auprès de ces vers que ce qu'est une vulgaire image d'Épinal comparée à une toile de Léonard de Vinci. Il me faudra 3 ou 4 hivers encore pour achever cette œuvre, mais j'aurai enfin fait ce que je rêve, être un poème digne de Poe et que les siens ne surpasseront pas. Pour te parler avec cette assurance, moi qui suis la victime éternelle du découragement, il faut que j'entrevoie de vraies splendeurs. Malheureusement, en creusant le verre à ce point, j'ai rencontré 2 abîmes qui me désespèrent. L'un est le néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme, et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail. Que cette pensée écrasante m'a fait abandonner. Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublime, mon ami, que je veux me donner ce spectacle de la matière, ayant conscience d'elle et, cependant, s'élançant forcenément dans le rêve qu'elle sait n'être pas, chantant l'âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges et proclamant devant le rien qui est la vérité ses glorieux mensonges. Tel est le plan de mon volume lyrique, et tel sera peut-être son titre, La gloire du mensonge ou Le glorieux mensonge. Je chanterai en désespéré.
C'est donc la révélation d'une crise intérieure profonde. Et cette crise intérieure profonde, elle a un premier aspect, c'est ce qu'il appelle la découverte du néant. En creusant le verre à ce point, j'ai rencontré 2 abîmes qui me désespèrent, l'un est le néant. Et il faut bien voir que cette découverte du néant, ou cette rencontre du néant, n'est pas le fruit d'une réflexion philosophique. Il n'est pas arrivé là par la réflexion. C'est en creusant le verre, et le verre d'Hérodiade, qu'il est arrivé au néant. Autrement dit, c'est par son activité de poète qu'il est arrivé au néant, à la découverte du néant. Et cette découverte du néant se double d'une deuxième révélation, corollaire de la première, Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière. Donc une profession de foi matérialiste, l'idéaliste devient un matérialiste convaincu. Mais ce matérialisme et cette découverte du néant ne signifient pas que rien n'existe à ses yeux. Cela veut dire simplement, quand on creuse, c'est qu'on est à la recherche de la fondation, des fondements. Et creuser le vers, creuser la poésie, c'est chercher le fondement de la poésie. Or, la poésie, traditionnellement, c'est le langage des dieux. C'est ce qui donne accès à l'idéal. Eh bien, en creusant le vers, Mallarmé ne trouve pas Dieu. Il trouve ce qui va tenir lieu pour lui de Dieu désormais, c'est-à-dire le néant. Ce qui ne veut pas dire que rien n'existe, ce qui veut dire simplement qu'il n'y a pas de fondement ontologique qui justifierait la poésie comme pratique idéale. Alors on pourrait dire, alors Mallarmé va abandonner la poésie. Non, il n'abandonne pas la poésie. Pourquoi ? Parce qu'il se donne un autre projet poétique. Et cet autre projet poétique, c'est de continuer à faire de la poésie, mais non plus comme avant, avec une autre logique. Je veux me donner ce spectacle de la matière ayant conscience d'elle et cependant s'élançant forcénément dans le rêve qu'elle sait n'être pas. C'est-à-dire que la poésie, à partir du moment où elle se découvre comme un mensonge, un glorieux mensonge, comme Dieu est un mensonge, comme l'âme est un mensonge spiritualiste, eh bien la poésie doit se donner une autre fonction. Et cette autre fonction, c'est de manifester à la fois le néant, mais aussi la sublimité de cette matière que l'homme constitue. Parce que si l'homme n'est que matière, cette matière-là qu'est l'homme a une capacité particulière, c'est celle de se dépasser elle-même, c'est-à-dire de produire du sens. C'est l'homme, c'est cet être fini qui porte en lui la capacité d'infini. Eh bien, la poésie peut être cette forme, la manifestation de ce mensonge, au regard évidemment du néant, mais un mensonge qui est la manifestation de la gloire même de l'être humain. C'est tout ce dont l'homme est capable. Donc, Mallarmé va continuer à être poète, mais il va d'abord devoir digérer cette révélation, c'est-à-dire lui qui l'a faite un peu par hasard, va devoir la penser. Et c'est l'objet des lettres qui suivent, notamment la lettre à Théodore Obanel, le poète provençal, du 16 juillet 1866.
Mon bon Théodore, je te griffonne un petit mot au crayon pour n'avoir pas l'air de mettre une lettre entre nous deux et causer plus intimement. Nous avons bien regretté le contretemps qui nous a privés de toi. Le Fébure, qui a été charmé que tu aimasses ses vers, est parti en me priant de te rendre ton serment demain. Pour moi, j'ai plus travaillé cet été que toute ma vie, et je puis dire que j'ai travaillé pour toute ma vie. J'ai jeté les fondements d'un œuvre magnifique. Tout homme a un secret en lui. Beaucoup meurent sans l'avoir trouvé. Et ne le trouveront pas parce que mort, il n'existera plus ni eux. Je suis mort et ressuscité avec la clé de pierrerie de ma dernière cassette spirituelle. À moi maintenant de l'ouvrir en l'absence de toute impression empruntée, et son mystère s'émanera en un fort beau ciel. Il me faut 20 ans pendant lesquels je vais me cloîtrer en moi, renonçant à toute autre publicité que la lecture à mes amis. Je travaille à tout à la fois, ou plutôt, je veux dire que tout est si bien ordonné en moi qu'à mesure, maintenant, qu'une sensation m'arrive, elle se transfigure et va d'elle-même se caser dans tel livre et tel poème. Quand un poème sera mûr, il se détachera. Tu vois que j'imite la loi naturelle.
Alors cette volonté de repenser ce qui lui est arrivé et de reconsidérer par conséquent toute son aventure poétique, c'est une expérience de longue haleine. Il se donne 20 ans, tantôt c'est 20 ans, tantôt c'est 10 ans, mais il a besoin de repenser tout cela. Il dira d'ailleurs en 83 à Verlaine, nous avons tous été si en retard du côté pensée que je n'ai point mis moins de 10 années à édifier la mienne. Voilà ce à quoi se consacre Mallarmé. Il y a 2 autres lettres, toujours dans cette période de crise, parce que c'est une période de crise profonde, intérieure. C'est aussi un combat spirituel, en quelque sorte, une lutte avec l'ange, ou avec Dieu, dont on ne se défait pas forcément facilement. Et son correspondant privilégié, ses correspondants privilégiés, Casalis et Lefebvre, il va leur écrire 2 lettres presque concomitantes. L'une à Casalis du 14 ou 17 mai 1867 et l'autre à Lefebvre du 27 mai de la même année.
Cher et cher, je profite pour te répondre de l'émotion charmante causée en moi par ta lettre. Je viens de passer une année effrayante. Ma pensée s'est pensée et est arrivée à une conception pure. Tout ce que, par contre-coup, mon être a souffert pendant cette longue agonie est inénarrable. Mais, heureusement, je suis parfaitement mort, et la région la plus impure où mon esprit puisse s'aventurer est l'éternité. Mon esprit, ce solitaire habituel de sa propre pureté, que n'obscurcit plus même le reflet du temps. Malheureusement, j'en suis arrivé là par une horrible sensibilité. Et il est temps que je l'enveloppe d'une indifférence extérieure qui remplacera pour moi la force perdue. J'en suis, après une synthèse suprême, à cette lente acquisition de la force. Incapable, tu le vois, de me distraire. Mais combien plus je l'étais il y a plusieurs mois. D'abord dans ma lutte terrible avec ce vieux et méchant plumage terrassé, heureusement, Dieu. Mais comme cette lutte s'était passée sur son aile osseuse, qui, par une agonie plus vigoureuse que je ne l'eusse soupçonnée chez lui, m'avait emporté dans des ténèbres, je tombais, victorieux, éperdument et infiniment, jusqu'à ce qu'enfin je me sois revu un jour, devant ma glace de Venise, telle que je m'étais oublié plusieurs mois auparavant. J'avoue du reste, mais à toi seul, que j'ai encore besoin, tant ont été grandes les avanies de mon triomphe, de me regarder dans cette glace pour penser, et que, si elle n'était pas devant la table où je t'écris cette lettre, je redeviendrais le néant. C'est apprendre que je suis maintenant impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu, mais une aptitude qu'a l'univers spirituel à se voir et à se développer à travers ce qui fut moi.
On enchaîne donc à Eugène Lefebvre. Et si je parle ainsi de moi, c'est qu'hier j'ai fini la première ébauche de l'œuvre, parfaitement délimitée et impérissable si je ne péris pas. Je l'ai contemplée sans extase comme sans épouvante, et fermant les yeux, j'ai trouvé que cela était. La Vénus de Milo, que je me plaise à attribuer à Phidias, tant le nom de ce grand artiste est devenu générique pour moi, la Joconde du Vinci, me semble, et sont les 2 grandes scintillations de la beauté sur cette terre, et cette œuvre, telle qu'il est rêvé, la 3e. La beauté complète et inconsciente, unique et immuable, où la Vénus de Phidias, la beauté, ayant été mordue au cœur depuis le christianisme par la chimère, et douloureusement renaissant avec un sourire rempli de mystère, mais de mystère forcé, et qu'elle sent être la condition de son être. La beauté, enfin, ayant par la science de l'homme retrouvé dans l'univers entier ses phrases corrélatives, ayant eu le suprême mot d'elle, s'étant rappelé l'horreur secrète qui la forçait à sourire du temps du Vinci, et à sourire mystérieusement, souriant mystérieusement maintenant, mais de bonne heure, et avec la quiétude éternelle de la Vénus de Milo retrouvée, ayant su l'idée du mystère dont la Joconde ne savait que la sensation fatale.
On voit dans cette lettre, évidemment, une espèce de dialectique de la beauté, avec les trois grandes périodes que symbolise à chaque fois une œuvre emblématique. Il y a Phidias, figure de l'Antiquité, la beauté grecque. Il y a Léonard de Vinci, figure de la beauté du christianisme, qui évidemment est à la fois la négation, si l'on parle en termes de dialectique, de la beauté antique, et une forme de dépassement, d'enrichissement. Et puis le troisième terme, ce serait la beauté moderne, celle que rêve Mallarmé. Et cette beauté moderne serait en quelque sorte à la fois la synthèse de la beauté antique et de la beauté chrétienne, et leur dépassement. Une beauté moderne, et la beauté moderne, par quoi se caractérise-t-elle ? Par le fait qu'elle est critique, c'est-à-dire consciente d'elle-même. Là où la beauté antique, pour Mallarmé, était, ça peut se discuter évidemment, inconsciente d'elle-même. On imagine donc à quel niveau se situe le projet Mallarmé. Trouver la troisième forme de beauté correspondante à la modernité après l'Antiquité et après le christianisme. Alors cette crise va se prolonger encore jusqu'à la fin des années 60. Elle se résoudra pour deux raisons. D'une part, je passe très vite, par la découverte de Descartes, du discours de la méthode, qui va lui révéler la notion de fiction. Et c'est à partir de cette notion de fiction qu'il va pouvoir repenser la poésie comme glorieux mensonge. Et puis, d'autre part, l'autre élément qui va contribuer à la résolution de la crise, c'est le retour à Paris, c'est-à-dire la réintégration du milieu littéraire parisien. Et à partir de là, il va redevenir, en quelque sorte, un homme de lettres, un poète, parmi d'autres poètes, même s'il a cette singularité dont on a parlé. Alors cette deuxième période, que j'ai déjà essayé de définir tout à l'heure, c'est la période d'une relative obscurité. Il est à Paris, il s'intègre, ou il essaie de s'intégrer au milieu parisien, mais avec des difficultés pour la raison qu'il est considéré comme un fou littéraire. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une activité poétique, bien sûr. Il est admis comme marginal dans ce milieu, ce qui ne l'empêchera pas d'être refusé par le troisième Parnasse contemporain, comme on sait, pour ce qui aurait dû être l'improvisation d'un faune, et qui deviendra l'après-midi d'un faune quand il le publiera une fois après l'avoir remanié. Bon. Donc on le sait, le Parnasse contemporain qui décide en matière de ce qu'est la poésie à l'époque, et dont le jury est constitué de François Copé, de Théodore de Banville et d'Anatole France, qui à l'époque est un poète, eh bien rejette Mallarmé comme il rejette Charles Cros et comme il rejette Verlaine. Les figures de la modernité pour nous ne sont pas acceptables. Le jugement d'Anatole France, c'est « on se moquerait de nous ». Et pour Verlaine, celui-là est indigne, évidemment. Bref, Mallarmé reste un marginal. Et c'est en 84 que se produit ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la redécouverte de Mallarmé par le milieu littéraire du fait d'Arebourg et des poètes maudits de Verlaine. Et à ce moment-là, bien entendu, Mallarmé est sorti de ses années de crise. Il en a tiré une doctrine, mais cette doctrine, elle n'est plus exposée dans sa correspondance. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de correspondant capable de recevoir sa pensée. Sa pensée s'est développée de façon intérieure. Et désormais, on n'en pourra percevoir les dimensions qu'à travers son œuvre poétique, pas à travers sa correspondance. Cependant, dès 1884, un jeune responsable de revue, de ces revues nouvelles qui naissent à l'appel à cette époque-là et qui disparaissent presque aussitôt, Léo Dorfer, lui demande une définition de la poésie. Et voilà ce que Mallarmé répond à la date du 27 juin 1884.
Mon cher monsieur Doirfer, c'est un coup de poing dont on a la vue un instant ébloui que votre injection brusque définissait la poésie. Je balbutie, meurtri. La poésie est l'expression par le langage humain ramené à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence, et d'où ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. Au revoir. Faites-moi des excuses.
Elle doit ainsi d'authenticité notre séjour. Cela veut dire que la fonction de la poésie, c'est de justifier la présence de l'homme sur la terre. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas une affaire de vers, ce n'est pas une affaire de rime, c'est autre chose. Ça se joue à un autre niveau. Après, on pourra toujours en discuter. Toujours est-il qu'à ce moment-là, Mallarmé devient une figure du milieu littéraire, surtout pour les jeunes. Et on a parlé de Verlaine et de ses poètes maudits. Verlaine va rebondir sur cette notoriété nouvelle de Mallarmé. Et puisque Mallarmé est désormais reconnu, il va vouloir lui consacrer un numéro de cette espèce de revue collective qui s'appelle Les Hommes d'aujourd'hui, où un fascicule est consacré à un homme d'aujourd'hui, une figure qui retient l'attention dans l'actualité de l'époque. Et pour réaliser ce fascicule des hommes d'aujourd'hui sur Mallarmé, que fait-il ? Eh bien, il écrit à Mallarmé pour lui demander des renseignements, parce qu'évidemment, personne ne sait rien de ce qu'est la vie de Mallarmé, et personne ne sait rien de ce qu'est son œuvre, puisqu'il n'a rien publié en guise de recueil. Il n'a publié que des poèmes par-ci, par-là, qui sont évidemment introuvables. Ce qui fait que Verlaine écrit à Mallarmé et lui demande de lui fournir des renseignements de façon à nourrir sa notice, et des poèmes de façon à pouvoir les publier comme inédits. Mallarmé lui envoie une très longue lettre qui est la lettre du 16 novembre 85, et il lui envoie aussi des poèmes jusque-là inédits qui vont être publiés par Verlaine dans Les Hommes d'aujourd'hui. Voici un extrait de cette longue lettre qui est à la fois une autobiographie et surtout ce que Mallarmé veut qu'on sache de lui, puisqu'il sait que ça va être destiné à fournir la notice des hommes d'aujourd'hui.
Je passe à moi. Oui, né à Paris, le 18 mars 1842, dans une rue appelée aujourd'hui Passage La Ferrière. Mes familles paternelles et maternelles présentaient, depuis la Révolution, une suite ininterrompue de fonctionnaires dans l'administration de l'enregistrement. Et bien qu'ils eussent occupé presque toujours de hauts emplois, j'ai esquivé cette carrière à laquelle on me destina dès les langes. Je retrouve trace du goût de tenir une plume pour autre chose qu'enregistrer des actes chez plusieurs de mes ascendants. L'un, avant la création de l'enregistrement sans doute, fut syndic des libraires sous Louis XVI et son nom m'est apparu au bas du privilège du roi placé en tête de l'édition originelle française du Vatek de Beckford que j'ai réimprimé. Un autre écrivait des vers badins dans les almanachs des muses et les étrennes aux dames. J'ai connu enfant, dans le vieil intérieur de bourgeoisie parisienne familiale, un monsieur Manien, un arrière-petit cousin, qui avait publié un volume romantique à toute crinière, appelé « Ange ou démon », lequel reparaît quelquefois à côté cher dans les catalogues de bouquinistes que je reçois. Je disais famille parisienne tout à l'heure, parce qu'on a toujours habité à Paris. Mais les origines sont bourguignonnes, lorraines aussi, et même hollandaises. J'ai perdu tout enfant à 7 ans ma mère, adorée d'une grand-mère qui m'éleva d'abord. Puis, j'ai traversé bien des pensions et lycées, dame lamartinienne, avec un secret désir de remplacer un jour Béranger parce que je l'avais rencontré dans une maison amie. Il paraît que c'était trop compliqué pour être mis à exécution. Mais j'ai longtemps essayé dans 100 petits cahiers de verre qui m'ont toujours été confisqués, si j'ai bonne mémoire. Il n'y avait pas, vous le savez, pour un poète à vivre de son art, même en l'abaissant de plusieurs crans. Quand je suis entré dans la vie, et je ne l'ai jamais regretté. Ayant appris l'anglais simplement pour mieux lire et dire Poe, je suis parti à 20 ans en Angleterre, afin de fuir principalement, mais aussi pour parler la langue et l'enseigner dans un coin, tranquille et sans autre gagne-pain obligé. Je m'étais marié sous la pressée.
Aujourd'hui, voilà plus de 20 ans, et malgré la perte de tendeur, je crois, avec tristesse, que j'ai bien fait. C'est que, à part les nouveaux, les morceaux de prose et les vers de ma jeunesse et la suite qui faisait écho, publiés un peu partout chaque fois que paraissaient les premiers numéros d'une revue littéraire, j'ai toujours rêvé et tenté autre chose avec une patience d'alchimiste, prêt à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction, comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres de son toit, pour alimenter le fourneau du grand œuvre. Quoi, c'est difficile à dire, un livre, tout bonnement, en maint homme, un livre qui soit un livre architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuses. J'irai plus loin, je dirai le livre persuadé qu'au fond, il n'y en a qu'un, tenté à son insu par quiconque a écrit, même le génie. L'explication orphique de la terre, qui est le seul devoir du poète, et le jeu littéraire par excellence, car le rythme même du livre alors, impersonnel et vivant, jusque dans sa pagination, se juxtapose aux équations de ce rêve, ou ode. Voilà l'aveu de mon vice, mis à nu, cher ami, que mille fois j'ai rejeté, l'esprit meurtri ou là, mais cela me possède, et je réussirai peut-être, non pas à faire cet ouvrage dans son ensemble, il faudrait être je ne sais qui pour cela, mais à en montrer un fragment d'exécuté, à en faire scintiller par une place l'authenticité glorieuse en indiquant le reste tout entier auquel ne suffit pas une vie. Prouver par les portions faites que ce livre existe et que j'ai connu ce que je n'aurais pu accomplir. Rien de si simple alors que je n'ai pas eu hâte de recueillir les mille bribes connues qui m'ont de temps à autre attiré la bienveillance de charmants et excellents esprits, vous le premier. Tout cela n'avait d'autre valeur momentanée pour moi que de m'entretenir la main. Et quelque réussi que puisse être quelquefois un des morceaux, à eux tous c'est bien juste s'ils composent un album, mais pas un livre. Il est possible cependant que l'éditeur Vanier m'arrache ses lambeaux, mais je ne les collerai sur des pages que comme on fait une collection de chiffons d'étoffes séculaires ou précieuses. Avec ce mot condamnatoire d'album, dans le titre « Album de vers et de prose », je ne sais pas si cela contiendrait plusieurs séries, pourra même aller indéfiniment, à côté de mon travail personnel qui je crois sera anonyme, le texte y parlant de lui-même et sans voix d'auteur. Ces vers, ces poèmes en prose, outre les revues littéraires, on peut les trouver ou pas dans des publications de luxe épuisées comme le Vatek, le Corbeau, le Faune.
J'ai dû faire dans des moments de gêne ou pour acheter de ruineux canaux des besognes propres et voilà tout, dieux antiques, mots anglais dont il sied de ne pas parler. Mais à part cela, les concessions aux nécessités comme aux plaisirs n'ont pas été fréquentes. Si à un moment, pourtant, désespérant du despotique bouquin lâché de moi-même, j'ai, après quelques articles colportés d'ici et de là, tenté de rédiger tout seul, toilettes, bijoux, mobilier, et jusqu'au théâtre et au menu de dîner, un journal, La Dernière Mode, dont les 8 ou 10 numéros parus servent encore, quand je les dévais de leur poussière, à me faire longtemps rêver. Au fond, je considère l'époque contemporaine comme un interrègne pour le poète qui n'a point à s'y mêler. Elle est trop en désuétude et en effervescence préparatoire pour qu'il y ait autre chose à faire qu'à travailler avec mystère en vue de plus tard ou de jamais, et de temps en temps envoyer au vivant sa carte de visite, stance ou sonnet pour n'être point lapidés d'eux s'ils le soupçonnaient de savoir qu'ils n'ont pas lieu. La solitude accompagne nécessairement cette espèce d'attitude, et à part mon chemin de la maison, c'est 89 maintenant rue de Rome, aux divers endroits où j'ai dû la dîme de mes minutes, lycée Condorcet, Janson de Sailly, enfin collège Rollin, je vague peu, préférant à tout, dans un appartement défendu par la famille, le séjour parmi quelques meubles anciens et chers, et la feuille de papier, souvent blanche. Mes grandes amitiés ont été celles de Villiers, de Mendès, et j'ai 10 ans vu tous les jours mon cher Manet, dont l'absence aujourd'hui me paraît invraisemblable. Vos poètes maudits, cher Verlaine, à rebours d'Huysmans, ont intéressé à mes mardis longtemps vacants les jeunes poètes qui nous aiment, malarmistes à part, et on a cru à quelque influence tentée par moi, là où il n'y a eu que des rencontres. Très affiné, j'ai été 10 ans d'avance du côté où de jeunes esprits pareils devraient tourner aujourd'hui. Voilà toute ma vie dénuée d'anecdotes à l'envers de ce qu'ont depuis si longtemps ressassé les grands journaux où j'ai toujours passé pour très étrange. Je scrute et ne vois rien d'autre, les ennuis quotidiens, les joies, les deuils d'intérieur exceptés, quelques apparitions partout où l'on monte un balai, où l'on joue de l'orgue, mes deux passions d'art, presque contradictoires, mais dont le sens éclatera, et c'est tout, j'oubliais mes fugues. Aussitôt que pris de trop de fatigue d'esprit, sur le bord de la Seine et de la forêt de Fontainebleau, en un lieu le même depuis des années, là, je m'apparais tout différent, épris de la seule navigation fluviale. J'honore la rivière qui laisse s'engouffrer dans son eau des journées entières, sans qu'on ait l'impression de les avoir perdus, ni nombre de remords, simple promeneur en yacht d'acajou, mais voilé avec furie, très fier de sa flottille.
Ce qui est caractéristique de cette lettre, c'est que, au moment précis où le public s'intéresse à Mallarmé poète, à ses poèmes, que dit Mallarmé ? C'est que ses poèmes ne sont rien. J'ai toujours rêvé et tenté autre chose. Et cette autre chose, c'est le livre, ce qu'il appelle le livre avec un L majuscule, qui serait l'explication orphique de la terre, orphique, c'est-à-dire poétique, explication poétique de la terre. Ce livre qui serait en quelque sorte la limite idéale de la littérature que chacun, que chaque écrivain, sans le savoir, poursuit toujours. Et Mallarmé, en même temps, a bien conscience que ce rêve-là est impossible. On n'arrive jamais à produire le livre avec un L majuscule. On ne peut en montrer que quelques fragments d'exécutés. Voilà ce que Mallarmé veut faire savoir à ce moment précis où il devient célèbre. Et en tout cas, l'idée qui va rester chez le public, au-delà des admirateurs inconditionnels, c'est que jusqu'ici on lui reprochait son caractère incompréhensible. À partir du moment où il devient reconnu, où il est pris au sérieux par beaucoup, certains, même qui ne sont pas très favorables, évitent de le critiquer parce qu'ils commencent à se demander si la difficulté même de Mallarmé n'est pas une valeur poétique. Et il suffit d'avoir une idée de ce que peut être la poésie contemporaine pour se rendre compte que si Mallarmé a gagné sur un certain tableau, c'est bien sur cette idée-là que la facilité de lecture n'est pas forcément un critère de la poéticité. Et la difficulté de lecture peut être aussi un élément essentiel de la poésie. Ce qui va susciter d'ailleurs beaucoup d'imitateurs qui vont vouloir faire du Mallarmé en faisant des poèmes incompréhensibles. Alors, on pourrait prolonger l'aventure poétique de Mallarmé jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, jusqu'au coup de dé, mais je voudrais dire un mot quand même de l'homme Mallarmé, après ses considérations sur la poésie. L'homme Mallarmé, on peut le décliner en 4 aspects, pour aller vite. Il y a évidemment l'homme privé, il y a l'amoureux, celui qui a commencé par, à ses 20 ans, faire la cour à une dame, une demoiselle entreaperçue chez des voisins à Sens, et dont il croit qu'elle est anglaise, ce qui à l'époque l'intéresse, alors qu'elle est allemande en fait, qui s'appelle Maria Gerhardt, et qui est employée chez une riche famille de Sens, les Libéra des Prêles. Elle est gouvernante, elle s'occupe des enfants. Elle est en France pour perfectionner son français. Elle est d'une famille modeste. Et Mallarmé va lui faire la cour en 1862, à 20 ans, en lui envoyant des lettres non signées. Et la première lettre qu'il lui envoie, en juillet, une des premières lettres qu'il lui envoie, c'est en juillet 62.
Mademoiselle, voici plusieurs jours que je ne vous ai vue. À mesure qu'une larme tombait de mes yeux, il était doux à ma tristesse que je prisse une feuille de papier et que je m'efforçasse d'y traduire ce que cette larme contenait d'amertume, d'angoisse, d'amour, et je le dirais franchement, d'espérance. Aujourd'hui, elles ne sont plus faites que de désespoir. Ces lettres, je les gardais, je les entassais chaque matin, pensant vous les remettre et osant croire, non pas que vous les liriez toutes, mais simplement que vous jetteriez les yeux au hasard sur quelques phrases, et que de ces quelques phrases monterait à vous cette clarté qui vous enivre et qu'on ressent lorsqu'on est aimé. Ce rayon devait faire ouvrir en votre cœur la fleur bleue mystérieuse, et le parfum qui naîtrait de cet épanouissement, espérais-je, ne serait pas ingrat. Je le respirerai. On l'appelle l'amour, ce parfum. Aujourd'hui, la désillusion est presque venue et j'ai brûlé ces lettres qui étaient les mémoires d'un cœur. Du reste, elles étaient trop nombreuses et cela vous eût fait rire de voir que je vous aimais tant. Je les remplace, ces sourires et ces soupirs, par ce papier banal et vague que je vous remettrai je ne sais quand et Dieu sait tout. Toute la gamme de ma passion ne sera pas scrupuleusement notée comme elle l'était. Je me contenterai d'écrire ici les trois phrases qui sont toute son harmonie. Je t'aime, je t'adore, je t'idolâtre. Pardonnez-moi, ô ma reine, de vous avoir tutoyée dans cette litanie extatique. C'est que, voyez-vous, je suis comme fou et égaré depuis quelques jours. Quand une flèche se plante dans une porte, la porte vibre longtemps après. Un trait d'or m'a frappé et je tremble éperdu. Retirez-le ou enfoncez-le plus avant, mais ne vous amusez pas à enfouiller mon cœur. Dites oui ou non, mais parlez, répondez. Cela vous amuse donc bien de me faire souffrir? Je pleure, je me lamente, je désespère. Pourquoi cette sévérité? Est-ce un crime de vous aimer? Vous êtes adorable et vous voulez qu'on vous trouve détestable? Car il faudrait vous trouver détestable pour ne pas vous aimer, vous qui êtes un regard divin et un sourire céleste. Vous êtes puni d'être un ange. Je vous aime. Pour me punir à mon tour de vous aimer, il faudrait n'être plus un ange, et vous ne le pouvez pas. Donc, laissez-moi vous contempler et vous adorer et espérer. Adieu. Je vous embrasse avec des larmes dans les yeux. Séchez-les avec un baiser ou un sourire au moins. Je vous aime. Je vous aime, c'est tout ce que je sache dire et penser. Écrivez par la poste à cette adresse. Monsieur S.M., poste restante à Sens. Cela me parviendra ainsi. J'attends ma sentence. J'irai encore vous voir au lycée. Je suis heureux de vous voir même de loin. Il me semble, quand vous tournez la rue, que je vois un fantôme de lumière et tout rayonne.
Quand on est amoureux, on est excusable. En tout cas, il développe ce sentiment avec un certain romantisme. Et ce qui fait que, après de multiples péripéties, eh bien, il obtiendra la main de sa belle, qui est en réalité nettement plus âgée que lui, elle a 7 ans de plus que lui, et il l'épousera précisément au cours de son séjour en Angleterre. Ils se marieront à l'oratoire de Brompton à Kensington et ils feront ensuite valider le mariage en France. Bref, ce sera la compagne de sa vie et leurs relations seront, disons, nuancées jusqu'à un événement qui va beaucoup marquer et le père et la mère, et c'est là qu'on passe de l'amoureux au père. Père d'une fille, Geneviève, née en 64, 19 novembre 64, et puis un garçon né en 71, donc 7 ans plus tard, qui s'appelle Anatole, qu'on appelle Tol, comme on appelle Vève, la fille Geneviève. Et cet enfant a 8 ans, au printemps de 1879, va tomber malade, et d'un mal qu'on n'arrive pas à identifier, que les médecins ont du mal à cerner, qui va être traité pendant plusieurs mois. Et c'est ainsi que Mallarmé va renouer, en quelque sorte, il n'a pas complètement abandonné le contact, mais il va renouer avec Casalis, sauf que Casalis n'est plus simplement l'apprenti poète qu'il était, comme Mallarmé l'était quelques années plus tôt. Il est devenu un médecin, et un médecin réputé, et c'est en tant que médecin qu'il s'adresse à Casalis en août 1879.
Bon, bon Henri, nous ne sommes plus à Paris. Quelle fatalité! Je t'écrivis, prête à partir pour la campagne tant souhaitée par notre Minet, et en laquelle nous avions mis quelque espoir. Je n'attendais de toi d'autre réponse qu'un pressement de main, et voici que tu nous offres une occasion d'espérer qui nous échappe. Le voyage s'est bien fait, avec 1000 précautions et par un beau temps. Mon malade était si content devant cette verdure qui lui rappelait le passé et la vie, qu'il dit de lui seul dans la voiture qui nous amena de Fontainebleau, « Je n'ai pas la queue d'un mal !» Mais cette joie a été de courte durée, comme le beau temps, une toux nerveuse continuelle de brise, malgré les potions, le teint est plombé et le ventre toujours si enflé. Le seul avantage que nous ayons trouvé est le goût qu'a pris le chéri pour le lait de la ferme, que nitre avec une poudre le médecin. Un docteur attentif, intelligent, mais qui me laisse bien peu d'espoir et ne permet de presque rien attendre que d'un miracle de la nature. Oh mon ami, je ne croyais pas que j'eusse encore en moi tant de larmes. Pauvre bon petit! Tu as été bon et qui, comme autrefois dans ton empressement, est vrai, ta lettre avait le ton de celle d'autrefois, au temps de jeunesse, dont je dépouillais le cher paquet il y a quelques semaines, en veillant Anatole. Je te presse la main, en vieil ami. Maintenant, je me ronge et me demande que faire. Aller tout de suite voir le docteur Peter et risquer un second voyage immédiat qui peut être moins heureux que l'autre, ou attendre qu'il nous cause une brusque alarme, ou que le temps nous chasse. Ah, si au bout de quelques semaines de séjour à la campagne, un peu mieux, ou le gros du mal passé, nous pouvions l'apporter au docteur Peter, afin de consulter sur les soins qu'exigera, je n'ose dire la guérison, mais le retour à une petite vie de malade, ou d'éternel convalescent, dont nous nous contenterions aujourd'hui. Croirais-tu, mon ami, que ce petit cœur a battu avec assez de violence pour former, comme une voussure, une élévation au côté gauche? Adieu, Henri, tes mains, nos meilleures amitiés à ta femme. Écris-nous un mot, ta voix nous est chère.
Et quelques jours après, à Henri Rougeon, qui est un haut fonctionnaire du ministère de l'Instruction publique et qui est un des protecteurs de Mallarmé, qui a beaucoup servi dans sa carrière d'enseignant.
Mon bon ami, je n'ose point donner de nouvelles parce qu'il y a des minutes dans ce combat entre la vie et la mort que soutient notre pauvre petit adoré, où j'espère. Je me repens d'une lettre trop triste écrite l'instant d'avant, comme de quelques courriers de malheur par moi-même dépêchés. Je ne sais plus et ne vois plus rien du reste, tant j'ai observé avec des émotions contraires. Le médecin, tout en suivant le traitement de Paris, paraît agir comme avec un malade condamné qu'on soulage, et s'obstine, quand je le poursuis au départ, à ne pas laisser une lueur d'espoir. Le chéri mange et dort un peu, respire, tout ce qui de ses organes a pu se soustraire à la maladie de cœur l'a fait. C'est, à la suite d'une grosse crise nouvelle, le bénéfice qu'il tire de la campagne. Mais le mal, le terrible mal lui-même, semble s'installer irrémissiblement. Si l'on soulève la couverture, on voit un ventre enflé à ne pouvoir le regarder. Voilà, je ne vous parle pas de ma douleur. De quel côté que la même mène ma pensée, cette douleur recule de se voir pire. Mais qu'importe souffrir, même comme cela. L'horrible, c'est, toute abstraction faite de nous, le malheur en soi, que ce petit être ne soit plus, si pareil sort est le sien. J'avoue là que je faiblis et ne puis affronter cette idée. Ma femme semble voir dans l'état du mignon une maladie grave et c'est tout. Il ne faut pas lui enlever le courage qu'elle trouve pour soigner son enfant dans cette quiétude. Je garde donc seul ici le coup de hache de l'arrêt du médecin. Adieu. Mes respects à votre bonne mère. Ma mère embrasse votre femme et votre sœur. Serrez quelques mains d'amis pour moi. Il m'est trop dur d'écrire et de condamner moi-même mon pauvre Minet en donnant de ces nouvelles. Je ne peux pas. Je laisse écrire Geneviève, qui est bien enfant et ne voit point. Excusez-moi à ce propos auprès de Madame de Banville, qui a la bonté de se réjouir d'une amélioration annoncée. Votre main.
Et le 8 octobre, donc, mot beaucoup plus laconique, Henri Rougon.
Mes chers amis, notre pauvre petit nous a quittés aujourd'hui à 3 heures, subitement, sans rien savoir. Je ne voulais pas, après la part que vous avez prise au deuil que je porte en moi depuis longtemps, vous laisser apprendre ceci par la lettre de faire part.
Mallarmé mettra longtemps à se remettre de cette mort. Il essaiera de faire un tombeau d'Anatole. Et il abandonnera parce qu'il n'y arrivera pas. Et ce sera publié seulement en 1961 par Jean-Pierre Richard, le dossier de ce qui aurait dû être le tombeau d'Anatole, qu'il a profondément marqué, bien entendu. Et le Mallarmé d'après ne sera jamais plus le même. La troisième dimension, après l'amoureux, après le père, rapidement, il y a l'enseignant. Alors l'enseignant, on a vu ce que signifiait pour Mallarmé d'être enseignant, c'était l'occasion de pouvoir accéder à la poésie par une activité rémunératrice et qui laisse a priori un peu plus de temps peut-être que d'autres fonctions, sauf que Mallarmé va être un enseignant très malheureux. Très malheureux parce que sans doute peu préparé à ce genre de fonction. Et il s'en plaint d'ailleurs dans des lettres dès le début de sa carrière en 1865 par exemple, le 15 janvier 65 et puis en juillet aussi. Voici ce qu'il écrit à ses amis.
Henri Casali. Cependant, je travaille depuis une semaine. Non. Je me suis mis sérieusement à ma tragédie d'Hérodiade. Mais que c'est triste de n'être pas homme de lettres exclusivement. À chaque instant, mes plus beaux élans ou de rares inspirations que je ne retrouve plus sont interrompus par le hideux travail du pédagogue. Et quand je reviens avec des papillons derrière et des bons hommes sur mon manteau, je suis si fatigué que je ne puis que me reposer. À Henri Casalis, au collège lundi matin. Tu ne saurais croire combien il est difficile de s'acharner au vers que je veux très neuf et très beau, bien que dramatique. Ajoute la complication désolante des classes qui coupent ma journée et me brisent la tête, car je suis peu respecté et même, parfois, accablé de papier mâché et de huée. Mais grâce à la volonté et aux carafes de café, je veux triompher. Tu me pardonneras bien cet accès et la platitude du reste de ma lettre, quand tu sauras que je te griffonne ces mots devant une classe d'idiots qui me harcèlent. Et enfin, à mesdames Mallarmé, mes petits chats, cette lettre va être morose. C'est de classe que je vous écris. Ce misérable lycée lointain est, le matin à part, plus fatigant l'été par la grosse chaleur. Il m'écœure. Je me sens pris de vomir dans le calice des rhododendrons dont se fleurit ironiquement sa cour. Le premier qui me tire la langue, je lui tire les oreilles. Que de vache ! Un mauvais point.
Alors il faut dire que Mallarmé n'était pas un enseignant toujours très zélé. D'abord, il a eu des ennuis avec les inspecteurs qui faisaient de mauvais rapports sur son enseignement. Il a eu des ennuis avec les élèves, il a eu des ennuis avec les parents d'élèves, c'est-à-dire que dès Tournon, les parents d'élèves se sont plaints. Et se sont plaints pourquoi ? Non seulement parce qu'il tenait mal ses classes, mais surtout parce qu'en 66, au bout de 3 ans de Tournon, il a publié des poèmes dans le premier Parnasse contemporain. Autrement dit, il était un poète. Et beaucoup ont trouvé que c'était scandaleux qu'un enseignant publia des poèmes, fut un poète moderne. Et il y eut donc une pétition des parents d'élèves auprès du sous-préfet de Tournon pour que Mallarmé fût viré de Tournon, ce qui fut fait. Il fut renvoyé de Tournon à la suite d'une intervention du sous-préfet de Tournon. Alors, il fut replacé à Besançon, puis à Avignon, parce qu'il a eu des soutiens dans le monde universitaire, je passe, mais il n'était évidemment pas très zélé. Et un dernier exemple, c'est ce qu'il écrit à sa femme et à sa fille en 85.
On coupe un peu, non?
Oui, la partie, la deuxième partie. Voilà. Attendez.
Oui. Oui.
Voici comment il programme sa semaine.
Voici donc le calendrier de juin à mon usage, car je ne puis sans prêter à rire, m'enrhumer ou rater le train précisément tous les lundis à la même heure. Je n'y perdrai rien, tu vas voir. Lundi, soit, je manque et me tais et reste près de vous. Mais au lieu de joindre au dimanche 14 et le lundi 15, je suis malade dès le vendredi matin 12 et le lendemain samedi, si bien que je passe à Valvin en bloc du mercredi soir 10 au dimanche soir. Je ne suis donc à Paris la semaine prochaine que mardi et mercredi. La suivante, celle du 15 au 21, je la donne tout entière à Paris et vais toute l'autre près au champ, soit du dimanche 21 au dimanche 28, jour du retour de toute la famille, si tu veux. J'ôte, tu le comprends, de la régularité à mes absences, et à part lundi prochain, ne manque en somme que 2 fois. La première, 2 jours de classe, et la seconde, 5. Cela fait toujours les 3 voyages projetés.
Voilà, donc, voilà le... Parce que Janson de Sailly était très loin de chez lui par rapport à sa résidence, évidemment, de la rue de Rome. Dernier aspect d'un mot, c'est ce qu'on peut appeler, avec un point d'interrogation, l'amant. On connaît la relation avec Mary Laurent, la fameuse Mary Laurent, cette actrice qui a défrayé l'époque. Et alors, elle apparaît dans la vie de Mallarmé en 1884, peut-être avant, mais en tout cas dans la correspondance à partir de 1884, et c'est une relation permanente de 84 à 98. Jusqu'où est allée cette relation, qui s'est manifestée par une correspondance nourrie? On a gardé les lettres de Mallarmé qui ont longtemps été interdites et que j'ai pu publier il y a quelques années. On n'a pas gardé les lettres de Mary Laurent parce que Mallarmé les déchirait aussitôt reçues pour qu'elles ne tombent pas dans les mains de sa femme et de sa fille. Bon. Et la question s'est longtemps posée de savoir jusqu'où était allée cette relation, s'il avait été véritablement amant ou pas. Alors il y a une lettre qu'on ne lira pas du 11 septembre 89 à laquelle je vous renvoie qui semble marquer un tournant, une rupture, mais une semi-rupture. Toujours est-il qu'il y a une confidence de Mary Laurent à Huysmans que Huysmans avait noté dans un carnet secret en abrégé, et où Mary Laurent racontait sa vie, toute son histoire, et puis elle parlait de Mallarmé, où elle disait Mallarmé, au fond, il aimerait bien être l'amant en titre. Elle avait beaucoup d'amants, faut-il dire, et dans le milieu médical et dans le milieu poétique. Bon. Toujours est-il que, comme elle dit, Mallarmé aurait bien voulu. Mais elle, non, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, pourquoi? Parce que, désolé de donner cette image de Marc, mais c'est dans la bouche de Mary Laurent, qui était fille d'une lingère, il est trop sale. Mais il ne faut pas oublier que l'hygiène de l'époque n'était pas l'hygiène que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, je m'arrête sur cette remarque abrupte. Désolé d'avoir été trop long.
Vraiment, merci de tout cœur, Bertrand Marchal, pour cette conférence aussi claire que passionnante. Moi, je ne me suis pas aperçue du temps qui passait, c'est tout dire, alors que je dois le surveiller. Je ne vois qu'une chose, c'est que vous devez revenir. Voilà. Alors, il faut absolument que nous quittions la salle pour 18h. On peut dire qu'il reste 10 minutes rapidement pour les questions. Et puis, il y a 3 exemplaires de la correspondance pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais je suppose que vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas. Jean-Noël.
Bon, alors, cinq petits points, juste des questions. Bien sûr, les rapports de Stéphane Mallarmé avec André Fontenat, d'une part. D'autre part, me vient à l'idée que, dans le fond, Mallarmé a écrit beaucoup plus de lettres que Madame de Sévigné, puisqu'il en a écrit 3000 et quelques, Madame de Sévigné en a laissé à peu près le temps. Ensuite, il y a une correspondance avec Henri Mondor, qui je crois est très importante. Les mardis de la rue Rome, les gens qui fréquentaient. On a dit aussi que c'était un mauvais anglicisme. C'était un mauvais professeur, on a dit que ses traductions n'étaient pas pertinentes. J'aurais voulu savoir aussi si Henri Casalis était bien le fils du pasteur. Non, pas du tout. Je vais faire un rapprochement entre le Mallarmé anti-bourgeois et le poème de Verlaine, Monsieur Chauvin. N'est-ce pas? Il est père et mère. À propos de la découverte du néant, me vient la citation de Chateaubriand, qui est l'inverse. Celui qui creuse la terre découvre le ciel. Voilà, on marque les quelques points.
Alors peut-être je pourrais sans doute pas répondre à toutes vos questions, mais sur la question de l'anglais, il est évident que l'enseignement des langues vivantes à l'époque était un enseignement très secondaire et très mal assuré. La plupart des enseignants d'anglais étaient d'ailleurs en général des anglophones de naissance, qui trouvaient un lieu pour faire valoir leur qualité d'anglophone. Donc l'enseignement de l'anglais, d'abord la formation était très courte, c'était une année après le bac à peu près, à étudier une pièce de Shakespeare en l'occurrence pour préparer son certificat, il a dû étudier Roméo et Juliette de Shakespeare. Voilà. Donc l'enseignement de l'anglais était un enseignement très secondaire, à une époque où le latin et le grec restaient dominants. Et d'autre part, cet enseignement de l'anglais, n'était pas les méthodes actives d'aujourd'hui, les méthodes audio-orales d'aujourd'hui, c'était un enseignement calqué sur le modèle de l'enseignement des langues anciennes, des langues mortes. Donc c'est un enseignement essentiellement écrit. Et il existe des ouvrages pédagogiques de Mallarmé concernant l'enseignement de l'anglais, des nursery rhymes par exemple qu'il utilisait pour familiariser les élèves avec la traduction thème, version, etc. Et en particulier pour faire pour faire percevoir la structure de l'anglais ou les modalités de l'anglais, il avait une méthode tout à fait singulière, c'est que il traduisait l'anglais mot à mot, comme on traduit le latin mot à mot, comme on traduit le grec mot à mot. Par exemple, il y avait « I am going », il faisait traduire « je suis allant ». Donc il faisait un décalque français de l'anglais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mallarmé, dans sa deuxième période par exemple, alors qu'il était professeur d'anglais, a eu beaucoup de correspondants anglais, il ne leur a jamais écrit en anglais, parce qu'il savait que son anglais était déficient.
Alors, je vais donner le mot de la fin à Bernard, je suis désolée. Bernard, en tant que... Tu peux dire quelque chose sur Mallarmé?
Non, je n'ai pas. Une toute petite question. Y a-t-il des échos des mardis dans la correspondance, d'une part, et qu'en est-il de ses relations avec un certain Clément Privé de Sens, à qui l'on doit un sonnet apocryphe dans la Pléiade?
Sur Clément Privé, il y a eu un livre qui a été fait, bon, qui reprend en fait l'argumentation de Pascal Pia, mais il n'y a pas de preuve décisive. Hein, ça reste ouvert. On ne peut. Il y a les tenants de la paternité de Privé pour ce poème, mais ça ne convainc pas tout le monde, parce qu'il y a de bons arguments aussi pour considérer que c'est peut-être de Mallarmé. Et puis
Y a des échos des mardis.
Il n'y a pas des échos du contenu des mardis. S'il y a des échos du contenu des mardis, on le trouve chez ceux qui assistaient au mardi.
Mais de lui-même ?
Mais de lui-même, non. Mais on peut dire que certains des textes des divagations sont sans doute la version écrite de ce qu'il pouvait dire dans les mardis. Et il est un livre qui est peut-être le plus intéressant de ce côté-là, un roman, qui est le livre de Camille Mauclair, Le Soleil des Morts, où ce qu'il met dans la bouche de Calixte Armel, alias Mallarmé, donne un certain sentiment d'authenticité. C'est-à-dire que Camille Mauclair a été un bon fidèle de Mallarmé et a sans doute reproduit quelque chose de la pensée de Mallarmé dans son roman.
Bon, excusez-moi, mais vraiment, il faut que nous...